Vous écoutez, on lit pour vous.
Prescrire la nature, quand la toundra devient thérapeutique, un texte de Marie-Pierre Rioux, publié le 21 octobre 2025 dans le Nunavut. Les ordonnances de temps en nature ont vu le jour aux États-Unis il y a plus d'une décennie, et depuis, elles ont pris racine dans plusieurs provinces canadiennes. Ma famille et moi avons choisi de nous installer à Iqaluit. Cette immersion dans le Nord m'amène à réfléchir autrement le lien entre nature et santé. Bien que nous soyons loin de nos forêts boréales ou de nos parcs urbains verdoyants, la nature soigne. Quand la nature devient soin, l'idée derrière les ordonnances de temps en nature est simple, mais puissante. Intégrer la nature comme un outil de prévention et d'intervention dans le domaine de la santé. Bien avant que la science ne confirme ses bienfaits, les peuples autochtones, dont les Inuits, entretenaient déjà une relation intime et sacrée avec la nature. Elle est source de nourriture, d'enseignement, de spiritualité et de guérison. Aujourd'hui, les chercheurs confirment ce que plusieurs savent intuitivement. À l'échelle populationnelle, les milieux de vie favorisant le contact avec la nature sont associés à une baisse de la mortalité, une diminution de l'isolement social et même une réduction de la criminalité. INSPQ 2017. En termes de perception, vivre près d'un espace naturel peut procurer un sentiment de bien-être équivalent à un gain de revenu de 10 000 $ ou à se sentir 7 ans plus jeune. Cardin et autres, 2015. À l'échelle individuelle, les effets sont impressionnants. Après seulement 15 à 20 minutes en nature, on observe une baisse de la tension artérielle, une diminution du cortisol, hormone du stress, une amélioration du système immunitaire et même une meilleure gestion de la glycémie. Pour ceux vivant avec des douleurs chroniques, la nature agit comme un complément aux stratégies de gestion. Sur le plan psychologique, les bienfaits sont profonds. Réduction de l'anxiété, diminution des symptômes dépressifs, meilleure concentration. Pour les enfants, une augmentation de la concentration à l'école a été démontrée. Du côté de nos aînés, la nature aide à prévenir les troubles cognitifs, brise l'isolement et augmente la perception du bien-être. La toundra, un terrain thérapeutique unique, au Nunavut, la toundra s'étend à perte de vue et même les quartiers résidentiels permettent un accès rapide à des sentiers, rivières et formations rocheuses millénaires. Les vastes paysages, la lumière unique du nord, le contact saisissant du vent sur nos joues, tout cela crée un cadre idéal pour une reconnexion à soi et à la terre. Ce qui pourrait sembler aride ou inaccessible est en réalité une richesse immense. Il n'y a qu'à marcher quelques minutes à l'extérieur du centre-ville d'Iqaluit pour s'immerger complètement dans la nature. Des niveaux d'exposition à la nature variables. La chercheure Virginie Gargano, 2022, spécialiste de l'intervention par la nature, a identifié plusieurs niveaux de contact avec l'environnement naturel. Même une exposition indirecte, comme regarder une photo de paysage ou une vidéo de nature, peut produire des effets bénéfiques. Ensuite viennent les contacts quasi passifs, comme le jardinage ou la présence de plantes. Le simple fait d'être dans un espace vert sans but de performance, de marcher ou de s'arrêter pour observer constitue une forme d'immersion légère. Enfin, des séjours prolongés en nature avec activité physique et nuitée permettent une immersion complète. Chaque niveau apporte son lot de bienfaits. L'important, c'est la régularité. Une prescription typique, 20 à 30 minutes, 3 fois par semaine. Une marche en toundra, un pique-nique au bord de la rivière Sylvia Grinnell, ou simplement s'asseoir en silence pour observer le paysage. Tout compte. Pourquoi la prescrire formellement? L'acte de prescrire, même de manière symbolique, a un impact. L'écrire sur papier renforce l'engagement tant du professionnel que de la personne qui reçoit la prescription. Son objectif? Faire de la nature une alliée accessible à tous et non un luxe réservé à ceux qui peuvent se permettre des escapades à l'extérieur des villes. Cela nécessite aussi un engagement politique pour protéger et valoriser les espaces naturels de proximité. Un modèle ancien est remis au goût du jour. L'idée de la nature comme soin n'est pas nouvelle. Les sanatoriums pour les tuberculeux au 19e siècle, Central Park à New York, conçu pour améliorer la santé des citoyens, ou encore le Shinrin-yoku ou bain de forêt pratiqué depuis les années 1980 au Japon, sont autant de preuves historiques. Plus récemment, des programmes comme PARX, Canada, Nature Prescription Écosse ou encore l'initiative québécoise Prescrit Nature s'inspirent de cette sagesse ancienne tout en la soutenant par des données scientifiques solides. Et ici, à Iqaluit, il serait facile de croire que ce genre d'initiative ne concerne que les villes du Sud. Mais ici, à Iqaluit, tout est en place pour intégrer la nature au quotidien. Les milieux éducatifs peuvent organiser des sorties en toundra. Les travailleurs de la santé peuvent orienter leurs patients vers des promenades en plein air. Et les citoyens peuvent simplement redécouvrir leur territoire. Et si l'on commençait par là? Sortir dehors, regarder autour, respirer et laisser la nature faire son œuvre. C'était « Prescrire la nature quand la toundra devient thérapeutique », un texte de Marie-Pierre Rioux, publié le 21 octobre 2025 dans le Nunavoie.
La caméra d'intervention, l'envers caché de la surveillance policière. Un texte de Simon Gionnet paru le 8 décembre 2025 dans Le Devoir. On est tanné de l'impunité et on veut des caméras corporelles maintenant, lançait aux médias en septembre 2025 Francisco Fabian Castro, l'organisateur d'une manifestation à la mémoire du jeune Nouran Redzaï, quelques jours après que l'adolescent de 15 ans eût été tué par les tirs d'un policier du service de police de l'agglomération de Longueuil. En l'espace d'une décennie, l'implémentation des caméras corporelles dans les services policiers s'est imposée dans le débat public nord-américain sur la brutalité et la transparence policière. Chaque mort qui s'ajoute au bilan des civils tués lors d'une intervention, au Canada comme aux États-Unis, relance le débat sur leur usage et les promesses qu'on leur attribue. Celle de responsabiliser les policiers en action et de les forcer à répondre de leurs actes en cas de violence ou de mort. Pratiquant le droit depuis plus de 10 ans, l'auteur américain Alec Karakatsanis entreprend de démanteler cette prémisse en exposant les revers de cette technologie dans la caméra d'intervention. Un dispositif au service de la bureaucratie de la punition, paru en français au Québec aux éditions de la rue Dorion. Dans cet essai de la taille d'un petit manuel d'instruction, il décrit un outil d'abord pensé et voulu par la police et les entreprises de surveillance et d'armement, présenté à tort comme une solution qui amènerait plus de transparence et de responsabilité, et qui, de surcroît, s'attaque aux communautés plus vulnérables. L'avocat est fondateur de l'organisation de défense Civil Rights Corps, puise ses réflexions dans sa longue expérience de navigation dans le système judiciaire et carcéral des États-Unis. « Une bureaucratie de la punition », écrit-il, en se référant à l'appareil répressif dont font partie le gouvernement, ses institutions et les entreprises affiliées au monde de la surveillance. Ce qu'il a vu, notamment à ses débuts comme avocat à l'aide juridique, a fondamentalement changé le cours de sa vie, dit-il. Entre injustice flagrante, loi absurde et conditions d'emprisonnement brutales, il a surtout constaté que l'incarcération de masse états-unienne s'est aggravée à coup de mauvaises réformes. L'intégration des caméras d'intervention est la plus récente d'entre elles, affirme-t-il. Un tournant décisif. À partir d'extraits de documents et de déclarations de chefs de police ou d'entreprises de surveillance, Alec Karakatsanis soutient que ces caméras étaient surtout vues comme un instrument privilégié pour accroître la surveillance de certains quartiers, influencer le comportement des foules durant une manifestation ou colliger des données vidéo qui pourraient faciliter les condamnations pénales ou protéger les policiers de plaintes civiles jugées non fondées. Les corps de police et des entreprises d'armement ou de surveillance les voulaient désespérément depuis longtemps, mais elles n'avaient jamais réussi à obtenir les milliards de dollars nécessaires pour les déployer à l'échelle du pays, explique-t-il, jusqu'à ce qu'elles changent de stratégie de propagande. La mort de Michael Brown, en août 2014 à Ferguson, qui fut tué par le policier Darren Wilson, leur a fourni cette occasion. Poursuit l'avocat. Son décès secoue alors l'opinion publique et déclenche une série de violentes manifestations contre la police dans cette ville du Missouri. Le public était scandalisé et très préoccupé par la brutalité policière. Il voulait que quelque chose soit fait, rappelle l'avocat. Et la pression d'agir, ajoute-t-il, s'accentuait sur Washington et les États. L'avocat s'affaire à montrer que, dans la foulée, les corps policiers et les entreprises du secteur, à commencer par Axon, la compagnie à l'origine du pistolet Taser, ont réorienté leur discours sur les caméras corporelles en les présentant comme une solution qui pourrait réduire la violence policière et responsabiliser les agents. Avec succès, ajoute Alec Karakatsanis, le financement de dizaines de milliers de caméras par le gouvernement de Barack Obama en 2015 insufflera d'ailleurs un élan majeur à l'industrie qui a depuis enregistré des millions de dollars de profits. De Freddie Gray à George Floyd, en passant par Breonna Taylor, la mort d'Américains noirs aux mains de la police et son instrumentalisation n'ont fait qu'accélérer le déploiement des caméras à l'échelle des États-Unis. Écrit Alec Karakatsanis, bien que plusieurs études et projets pilotes remettent en doute leur efficacité. L'avocat écorche au passage plusieurs voix progressistes et les médias états-uniens qui, de l'Associated Press au New York Times, ont rarement contesté selon lui le discours qui présente la caméra corporelle comme un outil de responsabilisation et de transparence. Se tourner vers des valeurs communes. Il reste que, à l'heure actuelle, plusieurs familles et communautés affectées par la brutalité policière demandent justice et croient au recours de ces caméras corporelles. Que leur répondrait l'avocat sur cette question? C'est important de commencer par des valeurs communes, répond Alec Karakatsanis. De se dire que nous avons cette conversation parce que nous voulons moins de violence policière, moins de meurtres commis par la police et plus d'égalité et de sécurité. Il invite à réfléchir à des mesures plus systémiques et prometteuses qui peuvent changer les corps policiers et le système judiciaire. Une plus grande participation démocratique des citoyens dans les institutions qui assurent leur sécurité, des mesures qui rendent les policiers plus responsables ou encore davantage de ressources communautaires. Par sa brièveté, l'essai n'offre ni une analyse détaillée ni une compréhension fine des études sur les caméras corporelles aux États-Unis et comporte sa part de généralisation. il a toutefois le mérite de présenter l'envers peu connu de cette technologie dans le contexte où son utilisation, notamment à Montréal, revient dans l'actualité. C'était l'un des souhaits de l'avocat. Je veux simplement que les gens qui veulent une société moins violente aient les outils nécessaires pour contrer la propagande incessante qui les entoure, dit-il. C'était la caméra d'intervention, l'envers caché de la surveillance policière, un texte de Simon Gionnet paru le 8 décembre 2025 dans Le Devoir.
Le Devoir d'éducation. Un texte d'Olivier Bélanger-Duchesneau, publié le 13 décembre 2025 dans Le Devoir. Une fois par mois, Le Devoir d'éducation vous propose des contributions enrichissantes, qu'elles proviennent de chercheurs ou de praticiens du milieu de l'enseignement ou d'autres personnes qui ont réfléchi à l'état de notre système d'éducation. À l'heure des révolutions technologiques, des fake news et de l'intelligence artificielle, la formation générale fait débat au Québec. Devrait-on poursuivre l'enseignement de longs textes philosophiques, de vieux classiques de la littérature, de même que conserver les exposés magistraux au sein de sociétés aux prises avec l'économie de l'attention? Comment entretenir un souci pour la vie en société qui passe par la transmission d'un héritage commun, sans d'ailleurs le scléroser, tout en nourrissant l'esprit critique qui loge au cœur de chaque être humain? Au-delà des éternelles oppositions entre partisans de la tradition et ceux de l'adaptation aveugle, pourquoi ne pas se tourner vers le fondateur de la sociologie, Émile Durkheim, afin de mieux déterrer les racines de l'idéal moderne de l'éducation? Le père de la sociologie hexagonale, né au milieu du XIXe siècle à Épinal, dans une famille de rabbins, possède la réputation d'un penseur positiviste et conservateur, traitant les faits sociaux comme des choses et posant de façon rigide la primauté des groupes sociaux sur l'individu. Il était défenseur d'un socialisme républicain, ami de Jean Jaurès et Dreyfusard acharné, mais il convient de dépasser une partie de ses réductions, principalement à la lumière de ses textes sur l'éducation. En effet, les écrits de Durkheim sur les institutions éducatives, rassemblés principalement dans les volumes « L'éducation morale et éducation et sociologie », nous éclairent sur sa conception politique de l'intégration sociale, à rebours du conservatisme traditionnaliste, comme de l'hyper-individualisme, deux tendances traversant actuellement nos sociétés postmodernes. Ils nous permettent de penser à nouveau frais la nature de l'émancipation par l'éducation scolaire, où s'articule sans se nier intrinsèquement appartenance à la communauté nationale et développement d'une pleine individualité. Paideia démocratique. Suivant une perspective dite holiste, qui reconnaît la nature objective de la société, celle-ci ne se réduisant pas à une somme d'individus, la sociologie de Durkheim fait de l'éducation le cœur de la socialisation et de l'école l'institution de la liberté. En effet, c'est à partir de ce lieu, à distance de l'influence familiale, que peut se former le sujet libre. Alors que, dans les communautés traditionnelles, l'œuvre de l'enseignement se trouve relayée par la morale religieuse, dans les sociétés dites modernes, elle doit s'incarner comme morale laïque, afin de favoriser la souveraineté de l'individu. Tel que souligne le sociologue dans un texte sur la dignité de la personne au temps de l'affaire Dreyfus, la République doit posséder, pour premier dogme l'autonomie de la raison et pour premier rite le libre examen. Car la force de la pensée durkheimienne réside dans sa capacité à lier, sans les opposer, importance de l'individu et reconnaissance de la société comme entité, une nation démocratique. Le sujet autonome, capable d'exercer sans entrave son jugement critique et d'affirmer sa singularité, ne s'oppose pas nécessairement à l'homogénéité du groupe, mais se trouve plutôt construit par celui-ci, à partir du moment où il ne lui impose pas de vérité toute faite, sans par ailleurs nier l'importance de l'autorité. L'instituteur instille chez l'élève le goût de la vie collective et ne l'assujettit pas à ses opinions. C'est d'ailleurs pourquoi le sociologue prône une éducation scolaire où l'enfant rencontrerait une pluralité d'enseignants, afin d'éviter de devenir une copie servile de l'exemplaire unique qu'il aurait constamment sous les yeux. C'est dire comment l'éducation républicaine doit se méfier de l'imposition des valeurs de ceux qu'on appelait les maîtres, afin que l'enfant puisse développer le sens critique d'un individu digne de ce nom, dont la conscience publique sait reconnaître la légitimité des lois rationnelles qui s'imposent dans la société laïque. De surcroît, l'éducation se trouve nécessairement rattachée à une société particulière, marquée par une histoire propre, une culture, des représentations collectives et des institutions. Ainsi, La nation démocratique doit s'actualiser et s'incarner par la formation à la morale civique, permettant de donner corps à la dimension politique du sujet moderne. Le citoyen, apte à réaliser concrètement la promesse d'autonomie, soit la capacité d'une collectivité à se donner ses propres lois et l'orientation qu'elle souhaite. Cette morale civique, qui permet de créer les habitus, les vertus et les comportements nécessaires pour vivre en commun, s'inscrit dans l'horizon antique de ce que les Athéniens nommaient la paideia, soit l'instruction publique nécessaire pour que soit possible le gouvernement démocratique. Elle peut se révéler dans l'apprentissage des langues, de l'histoire et de la philosophie, mais aussi, comme dans le cas de la Grèce, du sport et de la musique, du moment que ces activités permettent de travailler la discipline requise pour arriver à une meilleure maîtrise de soi. L'autorité pour l'autonomie. Nous voyons donc que, pour un sociologue comme Durkheim, le concept d'autorité ne s'oppose pas à la liberté individuelle, pas plus que la nation ne nie l'internationalisme ou le socialisme. Encore une fois, elle représente plutôt une condition de celle-ci. Elle incarne l'instance amenant le sujet à forger, grâce à une socialisation éducative propre, ses connaissances et ses qualités, pour ensuite se trouver mieux outillé afin d'exprimer sa singularité, précisément dans des sociétés modernes qui font une force de la différenciation sociale. Concept clé de sa première œuvre, de la division du travail social, sa thèse de doctorat écrite en 1893, le principe de différence ne menacerait pas a priori l'unité des sociétés selon Durkheim, mais pourrait plutôt être en mesure de produire, sous l'effet du processus d'urbanisation et d'industrialisation marquant la fin du XIXe siècle européen, une solidarité organique rendant les sujets du corps politique interdépendants par leur intégration professionnelle et spécialisée dans une totalité complexe. Cela dit, cette totalité ne peut exister sans contenu, sans quoi elle tomberait dans l'anomie, c'est-à-dire dans un état de désagrégation des règles communes. La société politique moderne possède ainsi un caractère national, et c'est pourquoi Durkheim se fait le défenseur de la transmission d'une éthique patriotique. Mais il est impératif pour le fondateur de l'école française de sociologie que l'idéal national se confonde avec l'idéal humain. En cela, il s'avère un opposant farouche à tout nationalisme de fermeture. De toute façon, une éducation purement nationaliste et non humaniste reviendrait à reproduire à l'échelle d'une communauté le postulat égoïste des théories qui réduisent, comme dans nos sociétés capitalistes avancées, le social a une collection d'individus isolés, de monades fermées sur elles-mêmes. De son côté, la figure de l'éducateur, qui demande à l'élève de reconnaître son autorité, ne le fait pas, comme nous avons pu l'évoquer plus haut, dans son intérêt propre, mais plutôt parce que lui-même se trouve déjà soumis au pouvoir impersonnel de la raison, qui, elle, n'impose pas de dogmes, mais plutôt des règles et des méthodes. L'enseignant agit à titre de serviteur des grandes valeurs modernes que représentent l'égalité et la liberté. L'autorité de ces idéaux s'incarne au-delà des sujets qui agissent comme leurs passeurs pour les nouvelles générations. Mais il se révèle nécessaire pour aider l'élève à sortir de lui-même, participant activement à sa socialisation. Polarisation. Il ne s'agit évidemment pas dans ce texte de proposer un copier-coller de la Troisième République française, donc de souhaiter la restauration d'une version québécoise des hussards noirs, ces instituteurs austères d'un autre temps. Non plus de nier les formes de domination que l'histoire de ces institutions peut révéler. Mais les réflexions de Durkheim sur la nature dialectique de l'éducation moderne, articulant autorité et liberté, appartenance et cosmopolitisme, permettent selon nous de méditer sur les conditions de possibilité de la liberté, de même que dépasser les oppositions binaires en ces temps de polarisation idéologique. À l'heure du délabrement de l'école publique, de la démission à l'égard de l'exigence scolaire et des attaques contre l'enseignement de la philosophie et du français sous les coups du boutoir de la gestion néolibérale, la philosophie durkheimienne de l'éducation fournit quelques clés. D'abord, elle rappelle l'importance fondamentale d'ancrer le projet éducatif dans un cadre humaniste qui pourrait mieux s'actualiser au Québec à travers le programme Culture et citoyenneté québécoise et la formation générale au cégep à partir du moment où ceux-ci résistent aux sirènes des perspectives purement utilitaires, car considérées comme improductives. Tout en s'enracinant dans le caractère pluraliste de la société québécoise, ces programmes ne devraient d'ailleurs pas faire l'économie de l'enseignement d'un corpus commun, essentiel pour le partage des références collectives. Ensuite, il ne faudrait pas que l'exigence scolaire s'évapore sous la pression de l'accélération technologique et des impératifs que fournissent les codes du divertissement. sans la patience studieuse que requiert le développement de l'esprit critique et la reconnaissance de l'importance du lien social, pilier d'une société démocratique, il deviendra malheureusement peu surprenant de voir gagner du terrain, sur les plans culturels et politiques, les démagogues réactionnaires. C'était « Le devoir d'éducation », un texte d'Olivier Bélanger-Duchesneau, publié le 13 décembre 2025 dans Le Devoir.
La mesure d'assistance, un coup de main pour vos démarches au quotidien. Un texte du curateur public paru à l'hiver 2026 dans Virage. Votre fils contacte vos fournisseurs de téléphonie et de câbles haute distribution pour que vous ayez le meilleur forfait. Votre nièce vous accompagne chaque semaine à la banque pour que vous puissiez faire vos transactions. Votre frère vous amène à tous vos rendez-vous médicaux. Cette personne de confiance peut devenir officiellement votre assistante et interagir plus aisément en votre nom, par exemple, auprès de votre médecin, de votre compagnie d'assurance ou d'un organisme gouvernemental. La mesure d'assistance permet à un de vos proches de vous accompagner dans les différentes démarches administratives de votre quotidien. Quant à vous, vous conservez votre autonomie et vous avez le dernier mot sur vos décisions. Grâce à une seule mesure, vous recevez l'aide dont vous avez besoin et vous vous évitez d'avoir à contacter chaque service pour autoriser votre assistant à parler en votre nom. Votre assistant est inscrit au registre public des assistants que les fournisseurs de services doivent consulter chaque fois qu'un assistant les contacte afin de s'assurer que la reconnaissance est toujours valide. Les trois étapes pour faire reconnaître un assistant. 1. Vous déposez une demande de reconnaissance d'un assistant directement auprès du curateur public en remplissant un formulaire en ligne sur québec.ca, par la poste ou en passant par un notaire. 2. Une rencontre, en personne ou en vidéoconférence, est organisée avec vous, votre futur assistant et une personne du curateur public. 3. Le curateur public analyse l'ensemble du dossier et rend sa décision. Et la procuration. Dans le cas de la mesure d'assistance, l'assistant que vous avez choisi ne peut pas décider, signer ou agir pour vous. C'est le contraire pour une procuration, avec laquelle vous autorisez quelqu'un d'autre à effectuer des transactions précises pour vous, comme vendre une voiture, signer un bail ou effectuer des retraits à la banque. Les deux existent et l'important est de choisir le moyen le plus adapté à votre situation et à vos besoins. Pour en savoir plus et pour commencer vos démarches, visitez le site web québec.ca/mesure-assistance. C'était « La mesure d'assistance, un coup de main pour vos démarches au quotidien ». Un texte du curateur public paru à l'hiver 2026 dans Virage.